Les balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série « Imaginaire et éthique ».
Bonjour, chers auditeurs. L'épisode d'aujourd'hui provient de l'enregistrement du séminaire Figura du 25 octobre 2023 qui s'intitulait « La traduction éthique de la littérature autochtone ». Dans le cadre de ce séminaire, Mélissa Major et Catherine Ego ont discuté de leurs pratiques de traduction en littérature autochtone. La discussion était animée par René Lemieux, responsable avec Pierre-Pascal Boulanger du pôle Traduction et traductologie du Centre Figura, ainsi que responsable de l'Observatoire de la traduction autochtone. Bonne écoute!
Mélissa Major possède un doctorat du département des littératures de langue française, de traduction et de création de l'Université McGill. Sa thèse portait sur une approche éthique et décolonisée de la traduction vers le français d'œuvres autochtones écrites en anglais. À la partie théorique de sa thèse s'ajoute une section pratique, la traduction du recueil First Wives Club, Coast Salish Style, de l'écrivaine Stolo Salish Lee Marigold. Elle a publié dans la revue Trahir un article intitulé « Définition contemporaine de littérature autochtone au Québec, des littératures aux définitions multiples ». Elle a aussi publié des comptes rendus pour TTR et Translation Studies. Elle est membre régulier du Centre Figura. Elle a enseigné les littératures autochtones à l'Université McGill et à l'Université Concordia. Elle a présentement un cours cette session-ci. Et est professeure permanente de littérature au Cégep de Saint-Jérôme depuis près de 15 ans. Alors, Mélissa?
Je commence? D'accord. Puis je pense que ça se peut qu'on ne soit pas toujours d'accord. Puis c'est correct. Puis en plus, on est capable de discuter de manière convenable. Donc, je m'inquiète pas trop. Donc, c'est ça. D'abord, je pense que ce qui est peut-être bon de souligner, c'est qu'il n'y a pas une littérature autochtone, mais plusieurs littératures autochtones, autant de littérature qu'il y a de nations ou de communautés autochtones. Sauf que on peut quand même parler de traduction des littératures autochtones de manière globale parce que, compte tenu de l'expérience que ces nations ont connue avec la colonisation. Donc, avec cette expérience de la colonisation, bien, ça fait en sorte qu'ils ont une expérience commune et qui lie ces communautés et qui lie aussi donc ces littératures. S'il y en a qui ont écouté ou qui étaient là, je sais qu'il y en avait quelques-unes qui étaient là à la conférence d'Isabelle Colomba de la semaine passée sur la recherche-création, eh bien, Colomba répétait souvent, ou en tout cas nous a dit que la traduction, c'était vraiment un art d'interprétation. Elle voyait la traduction vraiment comme un acte de création et elle privilégiait davantage une approche descriptive plutôt qu'une approche prescriptive dans la manière d'analyser, par exemple, les traductions. Et que finalement, ben, il pouvait y avoir plusieurs types de traductions pour une même œuvre. L'importance, ben, en fait, ça dépendait du projet de traduction. Et idéalement, donc, ben, ce serait écrit ce projet dans l'œuvre elle-même. Projet de traduction étant, ben, qu'est-ce que le traducteur ou la traductrice a voulu faire par cette traduction en particulier. À titre d'exemple, est-ce que, mettons, la traductrice a voulu rendre le texte plus intelligible pour le lectorat en langue cible? Ça pourrait être donc un projet, par exemple, de traduction. Le seul inconvénient, c'est que ben, souvent en littérature, vous avez dû le remarquer, c'est que c'est rare qu'il y a du paratexte qui vienne avec la traduction. Et donc, ben, le projet de traduction, généralement, on le connaît pas. Donc ça brouille des fois un petit peu les cartes parce que là, on sait pas ce que le traducteur, la traductrice a voulu faire. Puis des fois, je pense, personnellement, que ça aiderait le lectorat s'il avait donc la chance d'avoir ce projet sous les yeux. Maintenant, donc je pense que tout ce qui a été dit par rapport à cette création, cet art d'interprétation de la traduction, je suis tout à fait d'accord. Sauf que je pense que quand vient le temps de traduire des œuvres autochtones, je pense que cette liberté-là est pas aussi grande pour le traducteur ou la traductrice que pour d'autres types de littérature. Ça, c'est mon point de vue. Parce que, j'y reviendrai, mais compte tenu donc de la colonisation, j'y reviendrai, mais les littératures autochtones sont souvent politiques, même si elles parlent pas, bien sûr, de politique forcément. Mais ça exige peut-être du traducteur ou de la traductrice, je dirais peut-être d'être un peu moins créatif ou en tout cas d'être peut-être un peu plus... de parfois faire une traduction peut-être un petit peu plus littérale, mais j'y reviendrai. Et ce que je pense aussi, c'est que ce qu'il faut faire, là où il faut faire attention, c'est que beaucoup d'Autochtones ont eu une expérience de la traduction qui a été négative. Donc, il y en a plusieurs aussi qui sont réfractaires à l'acte traductif, et ça a été parfois l'occasion de transformer un message, de mentir aux Autochtones pour que les Allochtones, les Blancs, puissent donc obtenir ce qu'ils veulent. Entre autres, par exemple, si on pense aux traités, les 11 traités qui ont été signés au Canada entre donc la couronne britannique et différentes nations autochtones, ben entre ce qui a été dit, ce qui a été écrit, la manière dont certains concepts ont été présentés, ben il y a eu une forme de leurre. Donc ce qui fait en sorte qu'il y a certains autochtones qui ont une vision un peu négative de la traduction. Ensuite, autre élément je pense qu'il faut comprendre aussi, c'est que la plupart des écrivains autochtones en Amérique du Nord écrivent principalement en anglais, pour toutes sortes de raisons, ou en tout cas publient à tout le moins en anglais. Parce que, ben, à cause de la colonisation, entre autres à cause des pensionnats, il y en a plusieurs donc qui n'ont pas pu apprendre leur langue ancestrale d'une part, donc ils se sont retrouvés à apprendre la langue, une des langues colonisatrices, que ce soit le français ou l'anglais. Sinon, dans certains cas aussi, il y a des auteurs, je pense par exemple à Thompson Highway, qui parle et le cri sans problème, mais qui a décidé tout de même de d'écrire ses œuvres en anglais, parce que bien on se doute bien que le lectorat est plus important en anglais. Il y a des écrivains autochtones qui vont choisir d'écrire uniquement dans une langue autochtone ou qui vont vouloir offrir, par exemple, des œuvres bilingues. Bon, il y a tout ça, mais je dirais que la plupart des œuvres autochtones en Amérique du Nord qui sont publiées sont écrites en anglais. Donc, ce qui fait en sorte qu'on pourrait se dire, ben, on a déjà parlé bien souvent de traduction dans le cas d'œuvres littéraires écrites en anglais vers le français, par exemple. Donc, est-ce qu'on peut pas reprendre toute cette même méthodologie et réfléchir un peu au même concept? Sauf que je pense personnellement qu'on peut pas traduire un auteur autochtone qui écrit en anglais de la même manière qu'on traduirait un auteur américain, qu'un auteur canadien anglophone. Je pense que donc ça, il y a des enjeux qui sont différents et il y a des problématiques qui sont différentes donc dans l'acte traductif. Et donc, puis ça entre autres, il y a Womack donc qui en avait parlé, Craig Womack qui est un intellectuel Creek et Cherokee et qui avait dit donc selon lui, depuis les années 60, les œuvres autochtones, et il va assez loin, ne devraient pas être que des exercices de littérature. Donc, pour quelqu'un comme Womack, mais évidemment, lui a une vision très politisée de la littérature, je dirais, mais pour lui, donc, c'est impossible qu'une œuvre autochtone, à partir des années 60, ne soit pas politique de par son existence même. Là ce sont pas tous les écrivains autochtones qui vont être d'accord avec une telle affirmation. Mais reste que, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'œuvres littéraires autochtones qui cherchent à exprimer les revendications des autochtones, à exprimer aussi la volonté d'autodétermination politique des autochtones. Beaucoup d'œuvres qui veulent combattre les préjugés à l'endroit des autochtones, les stéréotypes, les conséquences fâcheuses du colonialisme, les conséquences des tentatives d'assimilation. Puis d'un autre côté aussi, souvent, il y a beaucoup d'œuvres aussi qui veulent chercher à préserver toutes sortes d'éléments des cultures autochtones, à en retrouver même, en refaire circuler, à les promouvoir. Donc, pas juste aussi à l'endroit des allochtones, c'est-à-dire des non-autochtones, mais aussi auprès des autochtones eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'une œuvre autochtone, même si elle ne parle pas de politique, est souvent quand même une œuvre politique, pour ces raisons-là. Et si donc ces œuvres-là sont souvent politiques, ben leur traduction devient forcément aussi un acte, je pense, politique, puis ça devient difficile de l'écarter, à mon avis. Et il y a plusieurs aussi universitaires, critiques autochtones, écrivains aussi autochtones qui vont souligner, comme par exemple Michel Lacombe, qui est une universitaire, qui est en partie donc acadienne québécoise, malicette, métisse, et qui va dire, il faut faire attention, elle s'adresse particulièrement aux universitaires, donc qui parlent de littérature autochtone, mais je pense que ça vaut tout autant pour les traducteurs et traductrices. C'est-à-dire que elle va dire, il faut faire attention de pas faire une lecture euro-américaine de ses œuvres. Et ça, c'est souvent un danger parce qu'évidemment, on a baigné dans non seulement un monde euro-américain dominant, mais en plus, on a une éducation euro-américaine. Puis c'est tellement ancré en nous que parfois, on a comme l'impression qu'il y a certains éléments de cette culture, de ces cultures, de ces valeurs qui vont de soi, comme s'il n'y avait pas d'autres possibilités de voir le monde ou de voir certains aspects, par exemple, de l'éducation ou je ne sais trop. Donc, ce qu'elle dit, c'est que les allochtones, donc, doivent faire particulièrement attention dans l'analyse des œuvres autochtones, justement pour éviter d'américaniser ou occidentaliser leur lecture. Puis il y a même des universitaires autochtones qui vont même dire, par exemple, je pense à Paula Gunn Allen, qui va, elle, dire, moi, je suis autochtone, je suis prof à l'université et je perçois certains éléments de l'œuvre dont je parle en classe, dans l'œuvre autochtone, et il y a des éléments dont je ne parle pas à mes étudiants et mes étudiantes. Pas parce que je ne sais pas de quoi il est question dans l'œuvre, mais je sais que ce qui est écrit là n'est pas adressé aux non-autochtones. Donc, elle se dit, des fois, je suis un peu déchirée. En tant que prof d'université, je me dis non, je devrais tout dévoiler. Mais en même temps, ses origines, parfois, donc, l'arrêtent. Donc, évidemment, aussi, l'autre élément, c'est qu'il y a tout un rapport de force, bien sûr, entre les allochtones et les autochtones. Et ce qui fait que ça risque, ça aussi, forcément, de... Bien, ça risque de teinter la traduction, ou en tout cas, ça peut avoir un impact. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention à certains peut-être pièges dans lesquels on pourrait tomber. Je pense à l'ethnocentrisme, j'y reviendrai. Et ce qui demande aussi de faire des recherches sur la culture dont est issu l'écrivain et l'écrivaine. Parce que, bien sûr, si on va être en mesure de percevoir certains éléments essentiels, si on les connaît pas, ça nous passe sous le nez aisément. Je pense, je suis pas la seule, mais on sera pas, tout le monde sera pas d'accord avec moi. Mais les traducteurs et les traductrices souvent se considèrent pas comme des agents idéologiques, mais il arrive qu'ils le soient, qu'ils le veuillent ou non, dépendamment du type d'œuvre bien souvent qu'ils vont traduire. Et j'ai envie de vous lire une citation de l'universitaire Louis Jolicoeur parce qu'il le dit tellement bien que, voilà, je voudrais surtout pas le paraphraser, il le dit trop bien. Alors, les choix de traduction dépendent avant tout des orientations idéologiques, du poids des cultures les unes par rapport aux autres, des décisions d'ordre éditorial et politique, et enfin des stéréotypes entretenus entre les cultures, lesquels n'existent pas non plus dans l'abstrait, mais trouvent au contraire, en général, leurs racines dans des réalités historiques, pour être ensuite alimenté par les intérêts souvent divergents d'un groupe par rapport à un autre. Dans ce contexte, le traducteur qui traduit un roman ne fait pas simplement son métier de passeur entre une culture et une autre. Il est le véhicule d'une intention plus ou moins articulée, peut-être même plus ou moins consciente, et il s'inscrit clairement dans un rapport de force entre un groupe culturel et un autre. La traduction est ainsi politique, affrontement, manipulation, voire subversion. Et là, je me réfère à Astrid Guillaume, une sémioticienne, qui va dire, et justement, cette idéologie, elle n'est pas présente que dans les textes religieux ou politiques. Donc, cette idéologie, elle est beaucoup plus subtile qu'on le pense. Et ça peut se retrouver, donc, dans un poème d'amour qui semble n'avoir rien à voir avec la politique. Et là, évidemment, je me réfère à Antoine Berman parce qu'il a beaucoup parlé de ce qu'il a nommé les tendances déformantes, qui sont donc un risque en traduction. Lui, il parlait de la traduction, donc littéraire de manière générale, mais il y a certaines de ces tendances, je pense, qui sont particulièrement intéressantes quand on pense à des textes littéraires autochtones. Et toutes ces tendances déformantes, souvent, vont être le signe d'une forme d'ethnocentrisme. Et là, Berman va définir ainsi l'ethnocentrisme. C'est ce qui ramène tout à sa propre culture, à ses normes et ses valeurs, et considère ce qui est situé en dehors de celle-ci, l'étranger, comme négatif ou tout juste bon à être annexé, adapté pour accroître la richesse de cette culture. Et entre autres, à l'intérieur donc de cette tendance ethnocentrique qu'on peut retrouver parfois, en traduction, ben il y a certaines tendances plus particulières qui attirent l'attention. Je pense entre autres, par exemple, à la clarification. Puis après ça, je vous illustrerai de manière concrète là avec les 20 premières pages que vous avez lues de cette œuvre-là. Donc la clarification, c'est-à-dire rendre plus clair que ce que l'auteur avait fait dans sa propre œuvre. Il y a aussi l'exotisation, par exemple, qui peut être une tendance déformante. On rajoute pour faire plus vrai. Puis ça, je vous dirais aussi, c'est d'autant plus peut-être tentant pour certains, dans le cas des traductions autochtones, parce que souvent, les gens, plusieurs personnes ont des images très stéréotypées des autochtones. Puis il faut que les autochtones ressemble à quelque chose qui rappelle un peu leur image d'enfance là. Ça prend des plumes, ça prend un peigne ou ça prend des éléments qui montrent que ces gens-là n'ont jamais évolué dans le temps, n'est-ce pas? On voudrait surtout pas. Puis il y en a plusieurs intellectuels qui vont justement décrier le fait que c'est comme si on voulait pas que l'autochtone change au fil du temps. Se transforme au fil du temps, il faut absolument qu'il stagne dans une image qui plaît aux allochtones. Donc, moi, ce que j'ai pu constater dans plusieurs traductions, c'est que justement, on va se mettre à exotiser certains éléments parce qu'on trouve que là, peut-être, ça fait pas assez autochtone, possiblement. Je me souviens de cas, par exemple, où on traduisait « house » par « tipi », ce qui n'était pas une erreur en soi, au sens où, dans le texte, on avait raison, le type de maison dont il s'agissait, c'était bien des tipis. Sauf que l'auteur avait choisi le mot « house » et non « tipi ». Clairement, il avait ses raisons, puis on peut s'imaginer lesquelles, mais donc, c'est pas parce qu'il savait pas que les Autochtones des plaines habitaient dans des tipis, là. C'est pas parce qu'il savait pas. Ça passe vite, 20 minutes. Mais il me reste encore un peu de temps, alors je pense que je vais y aller de manière concrète avec cette œuvre, Niti Sanak. Et chose intéressante, je lisais sur le site de la maison d'édition. Donc moi, j'ai une copie qui est signée Lindsay Nixon. Puis ce qui est intéressant, c'est que sur le site de la maison d'édition, on dit que l'auteur a permis qu'on continue de vendre ces copies-là. Moi, je l'ai acheté dans les derniers jours. Mais en fait, donc la personne a changé de nom pour Jas Morgan. Et donc, les nouvelles éditions sont pareilles, sauf que le nom de l'auteur a changé. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, ça peut porter à confusion. Là, si vous lisez des choses puis on parle de Jas Morgan, c'est pour cette raison. Et là, je veux juste attirer votre attention sur certains éléments que je trouvais particulièrement intéressants puis qui pourraient devenir donc une question de traduction. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Par exemple, un élément que je trouvais particulièrement intéressant, c'était le titre « Niti Sanak ». Puis pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que il n'y a pas de traduction. Si je pense que je l'ai amené avec moi, peut-être ça dit quelque chose à certaines personnes. Je pensais à Naomi Fontaine, Kwesipan, sa première œuvre. Donc, elle aussi, son titre était donc dans une langue autochtone. Dans son cas, c'était en Innu. Là, ici, c'est en cri. Mais Naomi Fontaine décide à l'intérieur du livre de là offrir la traduction pour les allochtones. Titre traduit, donc, qui vient en deuxième à toi. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans le cas de cette œuvre-là, le titre est jamais traduit pour le lecteur. Donc, déjà, on donne préséance à la langue cri. Puis ce qu'on est en train de dire aussi au lecteur, c'est « si ça t'intéresse de connaître le titre de mon œuvre, force-toi, va faire des recherches. » Puis ça revient aussi à plusieurs moments dans le récit. Il y a certains mots en cri. En fait, j'ai trouvé un mot en ojibwe, mais les autres étaient en cri. Et il y en a quelques-uns qui sont traduits. Je pense, par exemple, il y en a un dans un titre page 4. Niya, là, elle a mis entre parenthèses « mi ». Donc là, elle offre la traduction. Mais sinon, dans plein d'autres éléments, elle offre pas cette traduction. Nichi, elle nous le dit pas. Est-ce qu'on prend la peine d'aller fouiller ou on se dit tant pis, je passe et je continue ma lecture entre vous et moi? Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont été fouillés? Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nichi? Oui, vas-y.
C'est genre ami, non?
Oui, c'est ça, ami, exactement. Exactement. Donc, là, ça devient intéressant parce que ça demande un effort de la part du lecteur. Puis en même temps, c'est comme s'il était en train de dire, si vous vous intéressez suffisamment à moi, vous allez faire l'effort. Puis ceux qui font pas l'effort, ben je comprends que vous avez été paresseux, puis que vous avez lu, mais plus rapidement, mon œuvre. Donc, ça devient comme, d'une certaine manière, une façon de voir ou de percevoir son lectorat. Donc là, qu'est-ce qu'on fait comme traducteur? Est-ce qu'on offre la traduction ou on laisse ça comme tel? Par exemple, au tout début, on écrit NDN, n'est-ce pas? NDN Love. Bon, ben ça, c'est Indian. Et c'est un acronyme qui a été, qu'on a retrouvé d'abord sur les réseaux sociaux, qui ont pris leur place après ça en littérature. Joshua Whitehead l'a utilisé aussi dans Johnny Appleseed. Et là, ben, il faut le savoir. Est-ce que ici on offre donc la définition de Indian? Non. C'est à nous de faire nos propres recherches. En traduction, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, en plus, c'est que l'acronyme en anglais fonctionne bien. Mais là, en français, Indian, on va pas forcément, donc, en lisant, ça sonnera pas indien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je pense à Ariane Desrochers qui, dans, donc, la traduction de Johnny Appleseed, a choisi de conserver NDN, mais d'offrir au tout début de son ouvrage, de l'ouvrage, de la traduction, une explication sur l'acronyme, parce qu'il revenait tellement souvent. Mais c'est la seule précision qu'elle va faire de ce type-là. Autre chose, et là, après ça, je m'arrête, c'est promis. Prenons la page 17, par exemple, dernier paragraphe. Le dernier paragraphe, donc, commence par Nikawi. Mais remarquez, il n'y a pas de lettre majuscule. Puis, dans d'autres passages, page 16, même chose, deuxième paragraphe, Nikawi commence la phrase, il n'y a pas de majuscule. Nokom, même chose. Pourquoi? Ben en fait, c'est que dans la grammaire cri, on se rend compte que on n'utilise pas des majuscules. Donc, ben ça, c'est important de le comprendre parce qu'après ça, quand on va traduire, ben très certainement qu'on va y penser à cet aspect-là. Puis comme la personne qui a écrit l'œuvre, donc, a choisi de laisser place à non seulement des termes cri, mais à une grammaire cri, ben là, comment respecter ça dans la traduction? Ben encore là, faut avoir suffisamment donc lu sur la culture, sur la langue, pour être en mesure, donc peut-être, de prendre des choix éclairés.
Catherine Ego, à mes côtés, amoureuse de la langue et des mots, Catherine Ego se consacre à l'écriture et au dire sous toutes leurs formes. Elle a traduit une trentaine de livres, romans, recueils de poésie et essais en histoire, anthropologie et politique. Elle a notamment signé la traduction d'un important corpus de poèmes et œuvres de fiction d'auteurs et d'autrices issus des Premières Nations et du monde circumpolaire inuit. Elle s'est aussi illustrée comme traductrice attitrée de la Cree Louise Bernice Half Sky Dancer en sa qualité de poète officielle du Parlement du Canada sur toute la durée de son mandat 2021-2022. Après avoir été finaliste en 2015 pour Voisins et ennemis, la guerre de sécession et l'invention du Canada, John Boyko, Catherine Ego a remporté le prix littéraire du gouverneur général en traduction en 2016 pour la traduction des Indiens des Plaines, maladies, famines organisées, disparition du mode de vie autochtone de James Pitacha. Elle a été également doublement finaliste du prix de traduction de la Fondation Cole, Quebec Writers Federation, 2020 pour Solitude, recueil de nouvelles de Paige Cooper, et pour Noir sous surveillance, un essai de Robin Maynard. Catherine Ego est vice-présidente pour le Québec de l'Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada et chargée de cours en traduction littéraire à l'Université de Montréal. Elle a aussi enseigné la traduction littéraire à l'Université Concordia.
Voilà, j'étais venue avec des notes organiques dans lesquelles Mélissa, avec sa passionnante intervention, a achevé de mettre un désordre complet. Donc... Parce qu'en fait, je suis d'accord avec elle, dans une certaine mesure, il n'y aura pas de bain de sang, mais je ne suis pas d'accord sur tout. D'abord, d'entrée de jeu, je suis d'accord avec elle que la traduction autochtone, c'est une fiction. Il faudrait dire les traductions, puis il faudrait mettre autochtones au pluriel. Pourquoi ? Parce que les littératures, oui, mais aussi parce que les autochtones sont très, très divers et variés, non seulement dans les communautés, mais dans les gens aussi. Là, je vais vous inviter à faire un petit exercice. Je vais vous poser une question très simple, puis je vais vous laisser 15 secondes pour y penser. N'en faites pas une affaire d'état, là, ni une ulcère d'estomac, ne vous inquiétez pas. Laissez monter les mots qui viennent, là. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce qui vous est venu ? Pourquoi avez-vous pensé ?
Votre prénom.
Ouais. Pourquoi je vous fais faire cet exercice-là ?
Ouais, question.
Rien. C'est parce que quand on dit un autochtone, il n'y a personne au monde qui est juste autochtone dans la vie. Il n'y a même pas grand monde qui peut être essentiellement autochtone. Dès qu'on vient au monde, on est une petite fille ou un petit garçon, on est dans tel milieu, on est dans telle époque, on est dans tel lieu, on est dans tel milieu socio-économique et on fait telle chose de sa vie. Puis on est autochtone, blanc, noir, chrétien, bouddhiste, athée, on est beaucoup de choses. Mais on n'est jamais que ça. Donc ça, ce serait ma première mise en garde quand on dit traduire la littérature autochtone, les littératures, les autochtones, parce que les communautés, puis aussi les individus à l'intérieur. Quand on traduit des gens qui sont par ailleurs autochtones, ce sont aussi des auteurs par définition, sinon on n'aurait pas à les traduire. Donc ça aussi, c'est très important dans leur vie. C'est pas anodin d'écrire un livre, ça prend du temps, ça prend du travail, donc c'est certainement une décision qui n'est pas anodine. Donc je voulais attirer votre attention là-dessus avec mon petit exercice. La question de l'éthique en traduction, ceci dit, ce que dit Mélissa, parce qu'elle dit on peut parler des littératures autochtones parce que tous les autochtones partagent une expérience de la colonisation, c'est vrai, mais là aussi à divers degrés. C'est-à-dire que entre un enfant qui est né, disons à Wendake, qui est une communauté Wendat près de Québec, et un enfant qui est né à Evojivé, qui est le village le plus septentrional du Québec, au Nunavik, il y a une marge au niveau des traces de la colonisation. Il y a une marge. Mais là encore, ça se vit de manière individuelle. Il y a des enfants qui vont, peut-être des enfants, je parle de ça parce que je parle du contexte dans lequel on est, mais des gens qui vont trouver ça plus lourd à porter que d'autres. Dans les autochtones, il y a des gens qui ont des moyens financiers considérables. Il y en a qui n'en ont pas. Il y a des gens qui s'interrogent sur... Il y a des choses dans leur vie, des interrogations qui sont beaucoup plus importantes. Par exemple, leur identité de genre, peut-être, que leur identité autochtone ou allochtone ou indifférent. Donc, quand Mélissa dit qu'il partage tout, c'est par l'expérience de la colonisation. Oui, mais à des degrés divers. On pourrait aussi s'interroger sur la définition d'autochtone. Est-ce que c'est la définition du Canada qui dit « si tu as un numéro de matricule, tu es un autochtone » ou est-ce que c'est quelque chose qu'on sent ? Puis là, ça va jusqu'à ce qu'on appelle les nouveaux métis, qui dit « moi je le sens » parce que mon arrière-grand-mère était probablement benakise. Puis bon, les autochtones sont très fâchés contre ce qu'on appelle les nouveaux métis. Mais là aussi, il y a une gradation. Qu'est-ce qu'on appelle autochtone ? Quand on dit « c'est la littérature autochtone », d'où ça vient ? Bon, je vous l'ai dit, j'allais achever de vous mélanger au même titre que mes notes là. Mais, bon, voilà. Mais évidemment, il faut se donner des balises parce qu'on veut parler de la littérature autochtone, alors on se donne des balises. La question, quand on parle d'éthique en traduction des littératures autochtones, c'est la question qu'a posée Pierre Pascal. Qui sommes-nous pour traduire une parole que nous connaissons mal ? C'est ça le nœud de l'affaire. Qui sommes-nous ? Avons-nous légitimité quand on n'est pas autochtone ? Et encore une fois, chaque fois que vous entendez le mot, demandez-vous qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche de la personne qui le prononce ou qui l'entend, je vais laisser ça dans votre cours pour le moment. Qu'est-ce que ça veut dire quand on n'est pas soi-même autochtone ? C'est ça le nœud de l'éthique là-dedans. Il y a quelques années, si on m'avait proposé un livre d'une auteure ou d'un auteur autochtone, d'une autrice ou d'un auteur autochtone, c'est un questionnement qui ne m'aurait pas effleuré. C'est un questionnement très très récent. Vous le savez, quand vous voyez les traductions, ce n'était pas un questionnement qu'on avait, c'est un questionnement qu'on a maintenant. Alors, il y a des balises qui sont mises, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec ça, on ne sait pas quoi faire avec le problème. Il y a des gens qui disent, ce serait donc plus cool si tous les auteurs autochtones étaient traduits par des autochtones. Peut-être. Peut-être pas. Est-ce qu'un homme autochtone est mieux placé qu'une femme allochtone pour traduire une femme autochtone, par exemple, qui aurait été victime de violences conjugales ? Je n'en sais rien, c'est du cas par cas. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut se méfier de mettre des critères tels que appartenance ethnique, appelons ça comme ça pour l'instant, pour déterminer qui serait un bon traducteur ou une bonne traductrice pour une œuvre. Il n'y a pas que ça. Il y a d'où on vient, il y a à quoi on s'intéresse, Et puis la traduction, c'est un vrai métier quand même. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est de telle à telle appartenance, femme, homme, tranche d'âge, autochtone, pas autochtone, qu'on peut rendre bien la parole de quelqu'un, même si on vibre à l'unisson avec cette parole-là. Moi, je peux vibrer avec certaines autrices parce qu'elles vivent des choses que moi j'ai vécues ou avec lesquelles je peux me raccorder, etc. Est-ce que pour autant, bon, l'exemple est très mal choisi parce que je suis traductrice, mais est-ce que pour autant je pourrais rendre sa parole ? C'est ça la question. C'est ça la question. Alors, ne perdez jamais de vue que le métier que vous êtes en train d'étudier, c'est un vrai métier. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut avoir 52 ans d'expérience, puis deux doctorats et tout ça. C'est un métier qui s'apprend beaucoup aussi en le faisant, qui s'apprend sur le tas, qui s'apprend beaucoup en lisant. Et ça, ça commence pas à l'université, ça commence beaucoup plus tôt que ça. Alors, ça s'apprend aussi en s'intéressant au monde qui nous entoure, parce que c'est ça la traduction. La traduction, c'est, si vous ne traduisez que vous-même, que ce qui vous ressemble, que, bon, peut-être c'est confortable, je sais pas là, mais quand on traduit une littérature autochtone, c'est vrai qu'on est un petit peu projeté forcément ailleurs, ne serait-ce que parce que nous, on pense qu'on va être ailleurs, que l'auteur y soit ou pas. Quel désordre tu as mis dans mes notes. C'était incroyable. Bon, je vais y aller dans les hommes moi aussi. Bon, des balises. Certains auteurs ou certaines maisons d'édition ont mis des balises pour ça. Quand j'ai traduit Tania Talaga, ça s'appelait Renouer avec la terre et tout ce que nous unit. C'est pas mon titre, je vous le dis tout de suite, j'étais pas d'accord, mais bon. Parce que la traduction, je fais une petite parenthèse que je voulais faire rebondir sur quelque chose que Mélissa a dit. Une traduction littéraire publiée, c'est toujours une négociation entre un traducteur et un éditeur. Parfois l'auteur, pas tout le temps. Les auteurs s'en fichent. Vous leur posez des questions. Bon, économisez vos courriels et tranchez vous-même. Parce que... D'autres, par contre, sont très, très coopératifs. Mais il y a au moins toujours deux acteurs qui sont la traductrice et l'éditrice. J'essaie de parler un peu plus au féminin parce que c'est une profession essentiellement féminine. Donc, par exemple, le choix du titre, c'est pas tout le temps vous. C'est assez rarement vous. À moins que ce soit... évident là, mais sinon il y a des considérations là-dedans de vente. Il y a aussi des considérations que si ce titre-là existe déjà en français, a déjà été donné à plusieurs livres, votre livre va être invisible dans Internet, il va être mangé par les autres. Mettons, appeler un livre Les Quatre Mousquetaires, c'est pas gagnant, là je vous le dis tout de suite, ça peut pas arriver non plus, mais mettons, ce serait pas gagnant parce que c'est pas vous qui allez sortir en premier dans Google. Les éditeurs savent ça, donc des fois il faut s'incliner sur leur choix, mais battez-vous quand même. Parce que des fois, vous aurez gain de cause, puis ça vaut la peine. Je fais tout de suite le lien parce que Mélissa a parlé du titre qui était laissé, Nitisanak, et puis du fait qu'il y a des mots qui n'ont pas été traduits, des mots qui sont restés en cri et qui n'ont pas été traduits. Ça aussi, c'est une discussion qu'on a toujours avec l'éditeur, si c'est un bon éditeur. Un éditeur, c'est pas quelqu'un qui fait copier-coller chez l'imprimeur votre livre, là. Non. Ni quand il publie des livres en langue originale, ni quand il publie des traductions. C'est des gens qui accompagnent le livre, c'est des amis du livre, c'est les porteurs du bébé, là. Alors, si ce sont des bons éditeurs, ce sont des questions aussi qu'ils vont se poser, que vous allez vous poser, et qu'eux vont se poser, et le cas échéant, vous allez en discuter entre vous. Des fois, il y a des choses aussi, en apparence pragmatiques, qu'une uniformisation dans les collections. Par exemple, Imaginaire Nord, laboratoire des littératures circumpolaires à l'UQAM. Non, ils font un travail magnifique, ils publient beaucoup de ce qu'ils appelaient au début les littératures du froid. Il y a tout ce qui est circumpolaire, ils ont une collection, c'est fabuleux. Et eux accordent en genre et en or, en genre et en nombre inuit. Donc ils disent pas un inuk, deux inuits sans s, trois femmes inuites sans e, sans s. Ils écrivent un inuit, une inuite, la langue inuite et les igloos, inuit s. Bon, il y a une exception dans leur catalogue qui est le livre de Kumak, Tamuzi Kumak, c'est ça ? Je veux que les Inuits soient libres de nouveau. Où lui, il a jamais voulu qu'on. Enfin, en fait, la première version, ça n'avait pas été accordé en genre et en nombre, et donc quand ils l'ont réédité, ils ne l'ont pas accordé en genre et en nombre. Alors, qu'est-ce qui préside à ça ? Moi, je suis assez d'accord pour accorder Inuit en genre et en nombre parce que c'est un mot que nous connaissons bien maintenant. Moi, je dis, mais c'est très personnel, je me fais voler dans les plumes régulièrement, mais regardez. Si vous voulez traduire des livres, attendez-vous, vous faire voler dans les plumes régulièrement, il y a toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord. Bon, alors, mon choix là-dedans, c'est que ce mot-là, on est devenu plus proche des Inuits, on les connaît bien mieux qu'il y a 40 ans ou même qu'il y a 20 ans. On est devenu plus proche, c'est un mot, plus personne qui tombe en bas de l'armoire quand on parle d'Inuit, là tout le monde maintenant sait qui c'est. Puis deuxièmement, on les place quand même à peu près bien sur une carte du monde. Alors, c'est un mot qui, pour moi, fait partie de la langue française. Puis bon, le dictionnaire me donne raison, mais ça, c'est... Des fois, ils ont raison, puis des fois, ils ont tort de nous donner raison. Alors, moi, je le fais parce que je trouve que ça heurte moins l'œil et que donc, ça perturbe moins la lecture. Il y a 10 ans, c'était encore, ça faisait encore grincer des dents, maintenant, de moins en moins. Mais il y a plein de mots qu'on intègre. Spaghetti, scénario. On dit deux scénarios. Les Italiens, les cheveux leur dressent sur la tête. Un scénario, deux scénarios. Mais ça fait longtemps qu'on ne dit plus ça. Dans les cahiers du cinéma des années 50, on disait ça, deux scénarios. Maintenant, ça n'a plus de sens parce que nous sommes devenus plus amis avec ce mot-là et avec ce que ça représente. Donc, c'est une décision, moi, que je prends par rapport au mot Inuit. Mais on peut en discuter. Puis l'éditeur, des fois, vous dira non, non, on ne l'a jamais fait, puis on ne le fera pas. Mm-hmm. J'ai eu 30 séances d'explications avec le dernier livre, les futurs éditeurs du dernier livre que j'ai traduit qui s'appelle « Prenez votre souffle ». Inuit Kojimaga Tukangit, ça m'a pris des mois avant de l'apprendre, qui est les manières de faire Inuit. Et eux disaient « Ah, pas du tout !» Mais pas du tout. On va dire un Inuit pas d'accord, un genre, un nombre, etc. Et j'ai dû me battre contre ça. Puis l'argument, c'est toujours par respect pour la langue Inuktitut. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'écris pas en Inuktitut. J'écris en français. Alors, pour moi, ce mot-là doit être accordé en genre et en nombre. Je comprends que des fois, tu parlais de cri, la grammaire cri, où on met pas de S parce que c'est un terme cri. Je comprends qu'on le fasse pas, mais c'est au cas par cas. Il y a, à mon avis, pas une règle qui dit, s'il y a pas de marque du pluriel en cri, il faut pas le mettre. Il ne faut pas le mettre dans vos traductions en français. Je pense que c'est au cas par cas. Puis, la plupart du temps, quand ça m'est arrivé, par exemple, je crois que c'était dans Tracy Lindbergh, où il y avait des mots de cri, puis j'étais embêtée, ben, je me suis organisée pour que si ça devrait être accordé en français, je me suis accordée pour que ça reste au singulier, tout simplement. Comme ça, il n'y a pas eu de décision à prendre. Vous pouvez faire ça pour 5 mots d'un livre. Vous ne pouvez pas faire ça pour tous les mots. À un moment donné, vous allez être coincé. Il va y avoir un accord en genre et en nombre. Si vous le faites une fois, vous devez le faire pour tous. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, bah tiens, j'ai noté ici, le projet de traduction est invisible. Et toi, tu déplorais ça un peu. Moi, je dis heureusement, les gens lisent des livres. Écoutez, traducteurs, là, on n'est pas des superstars. Une fois de temps en temps, on est mis en nomination pour prix du GG. Puis bon, on s'aperçoit que dans le fond, ça n'intéresse pas grand monde. Ici, je suis bien accueilli et tout, parce qu'on est entre gens du milieu, mais on n'est pas des superstars, là. Donc, notre projet de traduction, honnêtement, je pense que ça n'intéresse pas vraiment l'essence, la majeure partie du lectorat. Pour moi, une bonne traduction, elle doit d'abord se rendre. Si elle ne se rend pas à votre lectorat, puis votre lectorat, si c'est des gens très 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 pointus en traduction ou en traductologie ou en littérature, ben là, on peut y aller un peu avec plus de notes en bas de page, puis plus de finesse là-dedans. Mais si vous traduisez des romans relativement grand public, ou la décision, vous devez la prendre, puis vous devez vivre avec. Puis oui, c'est le fun s'il y a une mise en contexte, un appareillage critique, que la personne qui l'écrit parle de ça. Mais avant tout, pour moi, une bonne traduction, elle doit se rendre. Alors, comment ça se traduit dans les auteurs autochtones? Ben, évidemment qu'on n'entre pas là-dedans avec des gros sabots, ça a été fait, puis ça se fait encore. Je vais vous parler de Marcuzzi. Vous connaissez Marcuzzi? Le harpon du chasseur. Marcuzzi est un auteur, Marcuzzi Patsaou, qui a été un Inuit, qui était par ailleurs pilote, et puis... Le gouvernement fédéral, à un moment donné, a voulu recueillir un peu des histoires d'Inuit. Il a dit, ben, écrivez des trucs là, puis amenez-les, puis on va les publier sous forme de feuilletons, en quelque sorte, dans les magazines. Alors, Marcuzzi est arrivé, bam, avec une pile de feuillets, comme ça, chez la personne qui s'occupait de ça au gouvernement. La première version était en Inuktitut. Donc le gars a dit, ben, c'est cool, mais voilà. Donc il l'a traduit en anglais. Marcuzzi parlait très couramment l'anglais. Et il a écrit l'essentiel de ses textes en anglais. Il a écrit, par exemple, le Wings of Mercy en anglais. Il a écrit beaucoup en anglais. C'est pas quelqu'un qui baragouinait l'anglais, là. Peine et de misère, je vais traduire mon truc, non. Alors, les deux versions ont été publiées en même temps, une en Inuktitut et une en anglais. Et ça a été traduit, ça a été publié fin des années 60, hein, c'est ça? Et ça a été traduit très, très, très vite en français par Claire Martin, qui est partie de la version anglaise. Bien des années plus tard, peut-être... comme 40 ans plus tard, l'imaginaire norme a dit « on voudrait que tu retraduises le Marcuzzi, le harpon du chasseur ». Alors, ce que j'ai fait, sans lire la version de Claire Martin, parce que je ne voulais pas me laisser influencer. Oui. Qui a traduit ça très rapidement. C'est un peu exceptionnel qu'un livre se traduit, qu'un livre aussi confidentiel quelque part se traduit si vite, mais enfin, elle l'a fait. Et puis, moi, je l'ai refait 40 ans plus tard de l'anglais. En me disant, et tous les gens qui ont déjà assisté à une de mes conférences, j'ai chanté la même chanson pendant des années en disant un jour, quelqu'un d'autre la fera mieux que moi. Parce que quelqu'un d'autre connaîtra mieux. Maintenant, j'y suis allée au Nunavik, j'y étais pas allée à l'époque. Donc, j'en avais qu'une connaissance livresque du Nord. Alors, je m'étais dit, il y a peut-être des choses qui m'échappent, peut-être que non, mais en même temps, je suis pas complètement irresponsable. J'étais très bien entourée, notamment par Imaginaire Nord, qui a fait une révision très serrée du truc, et qui a, et quand j'avais des doutes, je leur disais, parce qu'une des grandes qualités du traducteur littéraire, c'est le doute. Faut pas que ça vous dévore au point que vous ne preniez jamais de décision, mais si vous dites, oh, c'est ça qui veut dire, clac, 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 ben là, on va tomber dans ce contre quoi, Mélissa, vous mettez en garde. Il y a tout un angle mort énorme qui va vous échapper. Alors, le doute, et autre qualité, l'humilité, c'est-à-dire ce n'est pas vous qui écrivez le texte, n'oubliez jamais ça, vous le traduisez, vous l'amenez à quelqu'un de votre mieux. Donc le Marcuzzi, moi je le retraduis en anglais en me disant quelqu'un d'autre fera mieux parce que quelqu'un d'autre connaîtra mieux, peut-être verra un peu les doubles fonds dans les valises de Marcuzzi.
Est-ce que aussi tu avais imaginé qu'on pouvait le retraduire à partir de l'inuptitude?
Oui.
C'est ça, oui. C'est ça, pas juste à partir de l'anglais, mais non. Aussi à partir de l'inuptitude.
Oui, parce qu'il existait deux versions qui sont... égales, c'est-à-dire ce n'est pas, elles sont toutes deux signées Marcuzzi. Et Marcuzzi en est l'auteur, c'est son droit le plus absolu de mettre dans une version des choses qu'il ne mettra pas dans les autres. Détour par Nivia Corneille-Dessen, qui a écrit Homo sapiens. Ça va, ça s'est paru il y a quelques années, là, deux, trois, elle est du Groenland, elle est une nuit du Groenland. Elle écrit, elle publie ses propres textes en danois et en kalaallisut, qui est l'inuktitut du Groenland. Puis, elle les traduit en anglais. Puis, dans ces trois versions-là, elle dit, et elle assume, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que d'abord, en traduction, ce n'est pas tout à fait la même chose, hein, on le sait. Puis, deuxièmement, parce qu'elle dit, ben, il y a des choses qui s'adressent à ma communauté. Ça, c'est dans la version kalaallisut. Évidemment, vous pouvez toujours aller l'acheter si vous lisez le kalaallisut, là, c'est pas... Bon. On vous interdit pas, mais c'est assez rare quand vous n'êtes pas un Inuit de Groenland. Et puis... il y a des choses dans la version kalaallisut, il y a des choses un peu différentes dans la version danoise, parce qu'on a une longue histoire, le Groenland étant une colonie danoise, il y a une longue histoire, puis quand je traduis vers l'anglais, où là c'est pour le monde entier, ben, il y a encore des choses qui y sont pas, ou qui y sont différemment, parce que je parle à d'autres gens, puis il y a des choses qu'on a envie, dont on a envie qu'elles soient sues par certaines personnes, et tu mentionnais ça un petit peu tout à l'heure. C'est leur droit le plus absolu. Nous, en tant que traducteurs, on peut pas le faire, mais eux sont les auteurs. Alors ils ont, en tant qu'auteurs, ils ont liberté totale sur ce qu'ils écrivent et sur quoi. Si un Krichi Sazibi veut écrire sur ses vacances à Punta Cana, je suis désolée, ça n'enlève rien au fait qu'il est autochtone, ça n'enlève rien qu'il est un auteur. Il a le droit. Alors, Marcuzzi, quand il a publié ses deux versions anglais et inuktitut en même temps, c'était une première fois en français par Claire Martin, une deuxième fois par moi, en 2010, quelque chose comme ça. Puis là, pas au coup de tonnerre. Moi, je souhaitais que quelqu'un le traduise mieux que moi. Bon, je vais être de mauvaise foi parce que je décolère pas depuis des années là-dessus, bien sûr. Ça a été retraduit. Mieux que moi, je sais pas. Je vous laisse lire les deux versions, quoi qu'on reparlera de pourquoi l'une des deux n'est plus disponible. Ça a été retraduit par deux personnes, un prof d'Inuktitut qui habite à Paris, qui est Aline Alco, et puis une traductologue, elle est traductologue? Une traductologue qui s'appelle Valérie Nitiou, qui est absolument, elle a un nom qui pourrait sonner inuit, mais qui l'est pas. Et puis, ils ont retraduit de l'Inuktitut en français pour lui, en anglais pour elle. J'ai des réserves sur le fait que Mme Enitiouk ait pu traduire directement de l'Inuktitut, mais mettons. Mais là, ce qui m'a fâché, traducteurs littéraires sont souvent des gens très distingués, tout ça. Non, 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 non. Oui, bien sûr, mais des fois, il faut mettre le point sur la table. C'est rare dans une carrière. Ils ont fait toute leur promotion autour d'eux. La première vraie traduction de Marcuzzi. Et s'il vous plaît, là, le sang m'a caillé dans les veines, comprenez-vous. Puis j'ai été une semaine à chaque fois que les journaux répètent ce qu'on leur dit. Chaque fois qu'un journal disait « Enfin, la première vraie traduction de Marcuzzi !» Mais non, parce que si, parce que ça, ça a été reproduit dans Trahir, dans le blog Trahir. Alors là, c'est parti dans le cyberespace. Madame Enitouk m'a répondu, puis j'ai répondu que non, que ça n'avait pas d'allure. Bon. Et puis, moi, je disais, je n'y allais pas avec le dos de la main morte, comme on dit quand on mélange deux expressions, je disais, ce que vous faites, c'est du colonialisme. De quel droit vous permettez-vous de dire que Marcuzzi, que sa version en Inuktitut est plus authentique que sa version en anglais? De quel droit? De quel droit?
Ça, c'est une chose. Deuxièmement, le prof d'Inuktitut, il ne l'a pas dit souvent parce que je pense qu'il s'est fait un peu remonter les bretelles par des gens plus peut-être puissants que moi. Mais il disait, et puis il y avait des choses qui n'avaient pas d'allure non plus dans la version Inuktitut. Il y avait des références chrétiennes alors que les Inuits ne sont pas... Pardon ? Mais c'est ahurissant. Lui, il connaît bien le monde inuit. C'est ça qui est désolant. Il a rencontré Marcuse. Il connaît bien le monde inuit. Il parle Inuktitut. Bon... pas l'Inuktitut qui se parle dans tout le cercle circumpolaire, de toute façon, c'est impossible, mais en tout cas, il le comprend. Puis il pense que quoi, qu'ils sont comme ça, comme sur les dessins d'enfants d'il y a 30 ans, là. Voyons donc. Mais c'est ahurissant de voir ça. Donc là, on ne peut pas se détourner par Marcuse pour vous dire qu'on ne peut pas enfermer un auteur autochtone dans son autochtonitude, si je peux dire, ou plutôt dans ce que nous pensons que son autochtonitude devrait être. Les autochtones peuvent aussi écrire des trucs qui n'ont rien à voir avec le monde autochtone. Est-ce que ça reste imprégné de leur histoire coloniale, comme le dit Mélissa, certainement, ça reste aussi très imprégné du regard que nous portons sur quelqu'un parce qu'on sait qu'il est autochtone. Bien sûr que oui. En parallèle à ne restreignez pas les auteurs que vous traduisez à leur autochtonitude. Puis là, je suis pas en train de dire que toutes les mises en garde que Mélissa a faites ne valent pas. Je suis entièrement d'accord avec les mises en garde qu'elle a faites, mais je veux pas répéter ce qu'elle a dit. Elle l'a dit avec beaucoup d'éloquence. Informez-vous, bien sûr. N'arrivez pas dans le monde des Inuits, dans le monde des Abénakis, dans le monde des Cris, sans rien savoir de rien. Informez-vous. Mais ça, c'est la job de base du traducteur littéraire. Si vous traduisez quelque chose sur... je sais pas quoi, moi, même un village au Manitoba, il faut que vous vous informiez un petit peu. Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils font? D'où ça vient leur histoire? Quels sont leurs rapports entre eux? Il faut que vous vous informiez. Donc là, peut-être en remettre un peu plus pour les autochtones, parce que c'est vrai que c'est d'une certaine manière un monde très différent du nôtre. Mais ne restreignez pas votre auteur à ça. Donc ne faites pas une hyper-autochtonisation. Ça se peut que des gens aiment les tisanes de sauge, puis c'est pas forcément parce qu'ils sont autochtones. Vous comprenez, j'exagère, là. Faut pas voir l'autochtonie partout, mais n'en manquez pas s'il y en a. J'ai fait travailler à des étudiants les textes des poèmes de Louise Huff, Skydancer, qui est la poète officielle du Parlement. Vous saviez qu'on avait une poète officielle du Parlement? Ben, vous savez maintenant. Moi, je l'ai appris quand on m'a demandé de la traduire. Alors, qui est une auteure cri, puis quand j'ai fait traduire à mes étudiants, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment des choses qui leur échappaient beaucoup, parce que c'est pas un monde qui fréquente beaucoup. Fréquentez les mondes que vous traduisez. De mille manières, allez-y, là. Les réserves, vous pouvez y aller. On peut encore réserve. Allez-y, bon, lisez-les, rencontrez-les, écoutez-les. Donc, il y avait par exemple un poème sur les robes rouges, puis qui parlait d'une robe rouge, puis pour moi, c'était évident, c'est devenu le symbole des femmes autochtones disparues, assassinées. Puis il y en avait un certain nombre qui n'avaient pas fait le lien. Donc là, c'est là qu'on mesure, à mesure qu'on connaît mieux une culture ou un domaine quelconque, on s'aperçoit du chemin qu'on a parcouru quand on voit des gens qui n'ont pas encore fait ce chemin-là. Alors, c'est sûr que là, il faut le savoir. Mais vous avez des balises pour ça. D'abord, informez-vous, fréquentez les univers que vous traduisez, quels qu'ils soient, mais peut-être surtout pour les autochtones. Deuxièmement, doutez. Si vous allez développer un sixième sens à mesure que vous allez traduire. Puis à un moment donné, vous allez dire, je ne sais pas pourquoi, mais là, il y a quelque chose, je pense que ça m'échappe. Puis peut-être deux fois sur trois, vous aurez tort, il n'y avait rien que vous avez échappé. Mais pour la troisième fois, ça vaut sacrément la peine d'aller vérifier. Ça vaut vraiment la peine. Puis entourez-vous, la bonne éditeur, si vous avez le choix. Appelez des gens, ça se fait ça. Appelez des gens pour dire, écoute, je sais pas, il me semble que ça fait allusion à quelque chose, mais je sais pas. Puis les gens vont discuter pour dire, oh, moi je vois pas. Puis vous en passez deux, trois, puis peut-être qu'il n'y a rien ou peut-être qu'il y a quelque chose. Puis maintenant, ce qu'on a vu aussi, moi je l'ai vu qu'une fois dans ma carrière, c'était quand j'ai traduit le Tania Talaga. Donc c'est Tania Talaga, c'est une journaliste à la base qui a écrit dans le Toronto Star. C'est le Toronto Star, je crois que oui. Puis là, elle a été invitée à donner les conférences Massey. Donc ça, c'est la CBC qui fait ça une fois par an. Elle invite un penseur, quelqu'un, à donner 5 conférences sur le thème de son choix. Elle part du principe pourquoi il y a tant de jeunes autochtones qui se suicident. Alors ça claque, un essai qui part de cette prémisse-là, ça claque. Puis après, avec ce point de départ-là, elle détricote un petit peu tout ce qui se passe, là, les séquelles du colonialisme, les pensionnats, les bas. Donc ça, c'est devenu un livre, comme c'est toujours le cas avec des conférences massées, et on m'a proposé de le traduire, mais l'éditeur anglais, pas l'autrice, l'éditeur anglais avait comme exigence qu'il y ait un autochtone qui me relise. Alors j'ai dit ok, mais deux conditions. Un, c'est moi qui le choisis, ou en tout cas c'est moi qui l'approuve. Puis deux, conditions que moi je dis tout le temps. Puis vous, ça va peut-être vous paraître extraterrestre parce que probablement que vous aurez ça d'emblée. Nous, on ne l'avait pas, je dis nous. Ça n'existait pas, il fallait se battre pour obtenir ça. C'est je veux voir toutes les révisions qui seront apportées à mon texte, toutes. Vous ne changez pas une virgule sans que je l'avoue. J'ai l'air d'une contrôle fric, là. Mais je le suis parce que c'est mon nom qui est sur la couverture. Puis si quelqu'un dit, ah, mais non, la traduction est nommée mauvaise. Il n'y a personne qui va dire, c'est le septième relecteur, là, non, personne, c'est vous. Alors, vous exigez ça. Mais ce que j'ai exigé aussi, là, en plus, en l'occurrence, ça, de voir toutes les révisions, je n'avais pas à l'exiger parce que c'était pour une maison sérieuse, qui est XYZ, et donc ils le font d'emblée, là. Mais d'approuver la personne qui me relirait, j'ai dit ça, non, je veux savoir qui c'est, là. En fait, ils voulaient un universitaire autochtone. Alors, un universitaire autochtone, francophone, qui est capable de relire une traduction, puis qui a le temps, il n'y en a pas tant. Limite. Il n'y en a pas tant. Alors, bon, ils ont fini par trouver, en fait, deux personnes, une qui n'a pas pu continuer, puis l'autre qui a continué, mais qui n'a apporté pas grande modification à mon texte. Et puis, c'est coûteux pour un éditeur. Alors, ils ne peuvent pas le faire à chaque fois. Autrement dit, vous restez les maîtres d'œuvre de cette traduction-là. Puis n'oubliez pas, vous avez un vrai métier, vous avez des vraies qualités. Ne vous excusez pas de traduire. Ça ressemble à un pep talk, mon affaire. Ouais. Mais ça en est un. Parce que souvent, les traducteurs, c'est comme un peu les invisibles de service. Là. Quand la traduction est mauvaise, tout le monde vous tombe sur la patate. Quand la traduction est bonne, c'est le livre qui est bon. Bon. Ou alors, il y a le troisième genre qui dit oh, « Quelle bonne traduction ! As-tu lu la version de départ ?» Ça vient de régler le problème. On ne peut pas juger d'une traduction si on n'a pas lu le texte de départ. Donc, méfiez-vous des gens qui disent une bonne ou une mauvaise traduction. Mmh. Là. J'ai fini.
Bon, merci pour vos interventions. Merci
d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.